Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition 2.0, on dit, de cette émission proposée par l'association Cap Sud Aveyron. Bonjour Florent.
Bonjour.
Bonjour
Pierre.
Pierre. Guy, bonjour. Pardon. Lionel et William.
Bonjour.
On commence comme chaque fois par l'actualité de l'association. On va vous reparler du prix Robin Cook. Donc le principe, c'est une sélection de 5 romans. Roman noir, polar, en lice. Mai 67 de Thomas Cantaloube, Sans collier de Michel Pedignelli, Géronimo et moi de Lilian Batelot, Panique en Amérique de Dominique Armorique. Sylvain.
En Armorique.
En Armorique, pardon. Les Malvenus d'Audrey Brière. Donc vous pouvez soit les acheter dans toute bonne librairie ou alors les emprunter dans toute bonne médiathèque également. Vous pouvez trouver la liste sur le site ou le compte Facebook, la liste des médiathèques, Cornus, Millau, Rodez, Saint-Afrique, etc., etc. Ensuite, vous votez pour celui que vous avez préféré avant le 31 mai, donc vous avez encore le temps de lire ces 5 romans. On vous développera dans chaque émission, on va vous faire en fait une série de 5 émissions où à chaque fois on va développer sur un roman, sans vous donner notre avis évidemment, puisqu'on n'a pas tous le même déjà, et pour que vous découvriez un petit peu les textes et les auteurs. Aujourd'hui on va aussi vous parler de l'actualité de l'association, l'actualité du 4 mai, c'est Lionel qui va nous en parler.
Oui, donc ça se passe à la Messa. Et c'est
alors, qu'est-ce qui va se passer à la Messa?
Ah bah, le matin, il y aura un atelier d'écriture animé par Laurence Biberfield. Pour cet atelier, il faut s'inscrire obligatoirement. C'est ouvert aux ados et aux adultes. Et l'adresse d'inscription, c'est Cap Sud Aveyron, en un seul mot, 12@orange.fr. L'après-midi, rencontre avec les auteurs. Laurence Biberfield et Rachel Coramblit.
Voilà, donc retenez surtout qu'il faut absolument s'inscrire pour l'atelier d'écriture avec l'autrice Laurence Biberfield à Cap Sud Aveyron 12, tout attaché, @orange.fr. Et on va revenir donc à ce prix Robin Cook, comme prévu, avec Guy, qui voulait aujourd'hui nous présenter Lilian Batelot et son livre Géronimo et moi.
Pour cette première présentation d'ouvrage, dans le cadre de la sélection du prix Robin Cook 2024, nous allons parler de Géronimo et moi, aux éditions 10-18, écrit par Lilian Batelot. Lilian Batelot est un écrivain et réalisateur français né à Aubin, département de l'Aveyron. Il est auteur de romans noirs, de romans jeunesse, de romans de science-fiction ainsi que de nouvelles. Il a aussi écrit pour le théâtre et il vit actuellement à Decazeville. Il a été tour à tour cracheur de feu, professeur de philosophie et conseiller de communication. Au cours de son parcours, il est passé tant par l'usine que par le bâtiment pour en 1998 commettre son premier roman Avec les loups aux éditions Climat. Après plusieurs autres romans parus aux éditions Albin Michel et Métellier, notamment Un détour par la dramatique radiophonique à Radio France et le théâtre, son 10e titre, c'est L'Inuit qui gardera le souvenir du blanc, paru en 2006 aux éditions du Navire en pleine ville, a été très largement salué par la critique. La diversité de son œuvre déroute car il change de genre presque à chaque nouvelle production littéraire, comme pour découvrir sans cesse de nouveaux territoires. Le fil rouge de son œuvre est une peinture sociale qui fait la part belle aux lumières de l'humanité, de personnages choisis parmi les gens simples par opposition aux ombres de la civilisation industrielle qui fait l'objet d'une critique acerbe. Le roman objet de la sélection, Géronimo et moi, aux éditions 10-18, ne dénote en rien à cette diversité, tant par le sujet que par la forme. Quel curieux et improbable destin que celui de la jeune Anceline Viala, native d'un hameau de l'Aubrac, que de se retrouver auprès de Géronimo après avoir combattu sur les barricades de la commune de Paris.
Je m'appelle Francine, mais il n'en a pas toujours été ainsi.
Je ne suis pas née parisienne et rien ne me prédisposait à combattre les armes à la main sur les barricades de la Commune de Paris. Cinquième enfant d'une famille de forgerons tirant le diable par la queue depuis l'arrivée des outils manufacturés dans nos campagnes, je naquis Anceline Viala dans une maisonnette de granit du Pouège de Larguet, hameau de la commune de Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans les monts d'Aubrac, aux confins de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère. Bouche de trop à nourrir, je fus très tôt séparé de ma famille et placé dès mes 4 ans dans une institution religieuse qui prendrait en charge mon entretien et mon éducation pour faire de moi, quand mon âge me le permettrait, une novice de l'ordre cistercien de la stricte observance qui en vient à manquer de vocation dans cette région frappée par l'exode. Malgré de longues années d'efforts des religieuses, je me révélais réfractaire à la vie claustrale. Au sortir de l'enfance, je m'enfuis du couvent au désespoir de mes parents. Peu de temps après, afin que je ne demeurasse pas à leur charge, ils me louèrent pour 100 sous le mois comme servante dans le café Bois Charbon de Célestin Costefave, un bougnat originaire du canton installé à la capitale. À Paris, exploité à longueur de journée au clocher de l'Aubrac, alors que je devenais tout juste jeune fille, je fus de surcroît bientôt abusé par le sieur Costefave. Ses assauts étaient répugnants quand le rut le prenait, mais avec lui le coït était une affaire rondement expédiée, en 3 coups de rein, comme font les lapins. Ce fut bien pire lorsqu'il en vint tant d'autres à monter dans ma chambre.
Par le biais du journal intime de la désormais prénommée Francine, nous découvrons au fil des pages l'évolution de cette femme qui, après une soumission totale à de vils proxénètes, rencontre une libraire qui lui ouvrira de nouveaux horizons. Devenue défenderesse de ses compagnes d'infortune, puis journaliste d'investigation, elle épouse les causes de la commune aux côtés des grands noms qui en ont fait l'histoire. Recherchée et poursuivie par les Versaillais, elle va être contrainte de fuir vers l'Amérique pour commencer une nouvelle vie. Comment et pourquoi se retrouvait-elle aux côtés de Géronimo ? Je ne voudrais pas divulgâcher et je préfère vous laisser le soin de découvrir cette aventure. Sans rien déflorer, l'enquête commencée à Paris continue des deux côtés de l'océan et la narration bien ficelée nous pousse à aller plus loin dans le texte vers la résolution. Un polar dynamique, vivant où s'entremêlent aventures politiques, histoire, philosophie, féminisme, amour, sans oublier une réelle enquête et son dénouement. Roman dans lequel tout ce qui pourrait de prime abord paraître loufoque s'emboîte parfaitement et trouve sens. Finalement, le destin d'Anceline Viala n'est pas si improbable et curieux que cela. Cet ouvrage est bien documenté et précis. Laissez-le vous bercer. Nul doute que Géronimo et moi fera date dans vos mémoires. Lilian Batelot, entre les mains de l'inspecteur Dérif, devra s'expliquer sur ce qui l'a amené à commettre Géronimo et moi.
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Monsieur Lilian Batelot, vous êtes entendu parce qu'il existe contre vous plusieurs raisons plausibles de soupçonner que vous ayez commis un roman, Géronimo et moi, paru chez 10-18, dont la peine pourra être l'obtention du prix Robin Cook 2024. Une fois que vous aurez décliné votre identité, vous avez le droit de répondre aux questions qui vous sont posées, de faire des déclarations ou de garder le silence. Votre nom et prénom ?
Nom Batelot, prénom Lilian.
Profession ?
Romancier.
Lieu de résidence ?
À Decazeville, dans l'Aveyron.
Pourquoi avoir commis ce roman, Géronimo et moi, paru chez 10-18 et sans témoin de surcroît ?
C'est toujours difficile de dire pourquoi on écrit un livre. C'est une somme de choses qui sont assez impalpables et qui prennent corps sous la forme de phrases, enfin de mots d'abord, puis de phrases, et puis ça finit par faire des chapitres et ça fait un roman. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis toujours, l'époque de la commune et celle des guerres indiennes me fascine vraiment. Et j'avais jamais percuté que ces deux époques étaient, pour partie, à peu près contemporaines, et même vraiment contemporaines. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de fugitifs de la Commune de Paris qui ont dû fuir la Commune après la semaine sanglante de répression, qui étaient partis pour les États-Unis, je me suis dit que c'était tout à fait possible d'imaginer une personne qui, ayant été communarde, se retrouve ensuite dans l'Ouest américain tel qu'on l'imagine dans les westerns. Et cette idée m'a fasciné parce que depuis toujours aussi j'aime beaucoup les westerns et de pouvoir marier ces deux périodes que je trouve très riches d'un point de vue philosophique. Hein. J'ai été dans des temps prescrits par les lois des hommes professeur de philosophie, donc je suis toujours très intéressé par les questions à la fois philosophiques et politiques, tout ce qui touche à l'humanisme, et c'était une façon de planter un décor qui me permette de faire évoluer les personnages dans des ambiances qui laissent à penser. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que, bien sûr, il y a tout cet arrière-fond historique, politique, philosophique, mais surtout, ce que je tiens à faire quand j'écris un roman policier, c'est de bâtir une intrigue qui soit intéressante par elle-même, quoi, qui ne soit pas que le prétexte à dérouler des idées politiques ou des idées philosophiques. Et là, j'ai pris grand plaisir à marier les deux, à marier la philosophie matérialiste qui me tient à cœur et les ambitions spirituelles qui ne me laissent pas indifférent non plus.
Donnez-moi 5 mots-clés qui résument Geronimo et moi.
Le premier, c'est sans doute liberté, parce que c'est un roman qui met en scène une héroïne qui était prise de liberté, alors de sa propre liberté, qu'elle vit au jour le jour aussi intensément qu'elle peut le faire, mais aussi est prise de liberté pour l'ensemble du genre humain, et d'égalité aussi, j'imagine, en ce qui concerne cette héroïne. Le second mot, ce serait trépidant, parce que les circonstances poussent cette héroïne, Francine, à vivre des jours qui sont réellement trépidants. Et elle ne vit pas un jour où il ne se passe pas quelque chose qui vienne comme un rebondissement dans sa vie, quoi, qui la fait changer de cap, qui la fait changer d'idée parfois, qui la pousse, quoi. Donc le second mot, ce serait sans doute trépidant. Le troisième, ce serait voyage, parce que ce que vit cette Francine, c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui, un mot qui n'existait pas à cette époque, un road movie, puisqu'elle part de Paris et qu'elle finit par se retrouver dans l'Ouest américain. Le quatrième, ce serait lutte, parce que les circonstances de sa vie que raconte son journal intime, par lequel on connaît son histoire, l'amène à rentrer systématiquement en lutte contre les injustices, pour faire vite. Et le cinquième mot, ce serait sans doute amour, parce que c'est une femme qui aime des hommes et qui aime le genre humain dans son ensemble.
Qui est votre personnage préféré dans ce roman ?
Oh, c'est évidemment l'héroïne, quoi. Il y a plusieurs critiques qui m'ont reproché de l'avoir fait trop belle, trop forte. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais d'une véritable héroïne qui tienne du super-héros très incarné dans un corps humain, tout simplement. Mais on connaît beaucoup de super-héros du genre masculin et il me tenait à cœur d'en faire un du genre féminin.
Et quel est celui que vous élimineriez sans état d'âme ?
Sans doute celui qui joue le rôle le plus noir, qui est ce proxénète qui voulait soumettre Francine à sa botte, quoi. Mais en même temps, si je l'éliminais, je ne pourrais pas avoir ce roman. Donc, il le faut. Le genre humain est ainsi fait que tout n'est pas rose et qu'il y a quand même de fiefs salopards, quoi.
Votre conseil, vin et musique pour accompagner la lecture de Geronimo et moi.
Pour le vin, c'est un genre, c'est le vin qui serait fait par un genre d'Indien à Véronée qui s'appelle Olivier Basset et qui fait un vin excellent dans le bassin de Cazeville à Cransac et qui fait des vins sous le label Mine de Vin. ce sont des vins extraordinaires qu'il fait avec des cépages anciens qu'il a retrouvés, quoi, et qui fait revivre. Et une musique, ce serait sans doute Nougaro, mais vous allez peut-être me rappeler le titre de ce morceau qui me vient à l'idée, là, et dont j'oublie le titre, qui est un genre de nouvelle, presque de roman. C'est un gars qui vient de faire un casse, qui fuit, qui se retrouve sur les toits, puis dans une boîte de jazz. Je ne me rappelle plus du tout le titre de ce morceau.
On cherchera.
J'espère que vous trouverez mieux que moi.
Lilian Batelot, à cette étape de la procédure et en tant que suspect libre, nous vous demandons de ne pas quitter le territoire et de rester joignable jusqu'au 15 juin 2024, jour de la remise du prix Robin Cook.
Vous pouvez compter sur moi.
Merci.
Mon bracelet électronique.
Merci Lilian Batelot de vous être prêté à ce jeu pour défendre votre roman Géronimo et moi, paru chez 10-18 et sélectionné dans le cadre du prix Robin Cook 2024.
Merci beaucoup William et Radio Larzac.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Et dès là bien sage, 200 briques. Somme toute ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler. Sur et ma planque chez Suzy et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la turtelle, Broubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle, descends pas sans toi par les doigts. Bon Dieu, encore les flics, vite le flic, et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 20, 6. Ta s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise, c'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. S'enfonçant tout au fond d'une cour, je descendis jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue je ne le savais plus, mais tant pis je suis sorti. Et tout de suite je les ai vus, quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie, toute la vie.
Et le titre cherché par Lilian Batelot, c'était « À bout de souffle », interprété par, évidemment, Claude Nougaro, dans l'émission « Polar, vin et compagnie » sur Radio Larzac.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit que je sache.
En 2004, Didier a eu l'idée de faire renaître un patrimoine local et familial disparu sous une végétation luxuriante qui reprend inlassablement ses droits, comme pour mieux nous faire sentir que nous sommes ici que de passage. On dirait le début d'un roman noir. Je suis avec Olivier Basset, qui est vigneron à Cransac. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc, Mine de Vin, C'est votre marque de fabrique ?
Oui, c'est ma marque de fabrique, enfin, si on peut dire. Mine de Vin, c'est l'histoire d'un tout petit vignoble dans le bassin de Cazevillois qui a vu le jour au travers d'une histoire croisée. Cette histoire croisée, c'est la rencontre entre mon beau-père et moi. Mon beau-père qui lui-même n'était pas du tout vigneron, il était coiffeur. Après 42 ans de coiffure, il avait peur de s'ennuyer à la retraite. Il a, avec ses frères, replanté une vigne à l'endroit exact où se situait celle de son grand-père. Voilà, sur un coteau magnifique. Et l'histoire est repartie comme ça. Il a fait ça dans un premier temps loisir. Et puis, en voyant que le vin dépassait un peu ses espérances, il s'est mis à en faire quelques bouteilles, ce qui a donné naissance à la bouteille Mine de Vin. Et puis après, on s'est trouvé, puisque donc je suis son gendre. Moi, j'ai fait autre chose de ma vie, mais je viens du monde viticole. J'ai grandi sur une exploitation familiale à Puy-l'Évêque, dans la vallée du Lot. Donc, j'ai été un des rares qui a suivi dans son projet de vigneron amateur. Et voilà, je suis revenu. Donc je travaillais dans une boîte toulousaine. Je suis revenu en 2015 dans une antenne de cette boîte. Et je suis passé progressivement à temps partiel pour l'aider. Puis, en 2018, il m'a donné les clés du vignoble et voilà, ça a donné naissance à plein de cuvées parce que comme j'étais vigneron sur le tard, j'ai essayé de rattraper le temps perdu en multipliant les recettes et les variétés.
Ouais, on a compris que c'était le fameux Didier alors. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors ces cuvées, une originalité, c'est cette donc mine de vin, il y a le vin, il y a la mine et sur vos étiquettes, on voit cette tour, j'imagine qu'il y a le tour de l'ascenseur de la mine.
C'est le logo du vignoble, c'est le chevalement, le dernier qui n'a pas été démantelé, qui est exposé au fond de la découverte de Decazeville, pour ceux qui connaissent. Ben, c'est un clin d'œil au passé minier du pays, et aussi c'est relié puisque la vigne donc, pousse dans son sol ici, qui est très atypique, parce qu'il y a ce qu'on appelle des schistes charbonneux, donc c'est des terroirs bien particuliers et qui sont pas communs en viticulture. D'ailleurs, qui n'existe qu'ici, à ma connaissance.
Et alors, pour nous décrire donc, ces différentes cuvées ?
Alors, l'histoire a commencé avec une parcelle d'un cépage, on ne peut plus classique, qui est le Merlot. Donc, c'est la bouteille qui s'appelle Mine de Vin, c'est une cuvée 100% Merlot. Et puis, au fil des années, le vignoble s'est étendu avec Didier, puis avec moi. Et ça a donné naissance à d'autres cuvées. La seconde, on va dire, ça a été le Mansois, donc le Fer Cervadoux. Ça, c'est pas une surprise, c'est le raisin, on va dire, emblématique de l'Aveyron et notamment de l'appellation Martillac. Moi, je fais un contre-pied, alors je le fais, le Mansois, c'est mon vin le plus léger. Je ne travaille pas dans la matière, je travaille sur le fruit. Ça, c'est la seconde cuvée. Il y en a une troisième qui est anecdotique parce qu'il y en a très peu. C'est le Mouissaguès. Donc ça, c'était un cépage autochtone qui était présent dans toute la vallée du Lot, notamment beaucoup de Cahors à Espalion, et qui a disparu avec le phylloxéra. Et Didier s'est intéressé à ce cépage et on a fait le nécessaire et on l'a redupliqué, on a planté un petit morceau, mais sur un terrain très difficile qui est peu poussant.
Donc là, on était plutôt sur des rouges.
Oui, ces trois-là, c'est des rouges. Et après, il y a la série « Il y a des vins d'autrefois ». Alors, comme on était passionné avec Didier de la plante, on a mis le bras dans la liane qui est la vigne et on a déterré un peu l'histoire des variétés anciennes et notamment des variétés hybrides qui sont naturellement résistantes aux maladies. Parce que on a eu plusieurs expériences gustatives et de culture qui nous ont dit que quand même, on était passé à côté de quelque chose en arrachant tout ça au siècle dernier. Je pense que c'est en train de donner raison pour certaines. Que j'en ai replanté quelques-unes.
Et c'est quel nombre de cépages ?
Pour l'instant, j'en ai plusieurs. Tout n'est pas sorti parce qu'il y en a qui sont en train de pousser, mais il y en a qui sont déjà en place. Il y a des blancs, essentiellement du rayon d'or, qui a donné naissance à la cuvée vin d'autrefois blanc. Et ensuite, un coup d'air noir, parce qu'il a donné naissance à la cuvée vin d'autrefois rosa. Voilà, c'est des vins très, très atypiques.
C'est un vin qu'on boit dans quelles circonstances ? Ou avec quel plat ?
Si on balaye toute la gamme, il y en a à peu près pour tous les goûts et toute la cuisine. Mine de vin, c'est un rouge classique fait pour manger. Le Mansois, c'est un rouge léger fait pour boire à pleine bouteille avec des copains. Le Mouissaguès, c'est la curiosité. C'est un rouge tout en finesse, mais avec une aromatique qu'on a oubliée. Et les vins d'autrefois, c'est des aromatiques un peu oubliées. Alors pour le blanc, ça va rester, on va dire, atypique, mais dans les cordes de ce qu'on attend d'un blanc. Et pour le rouge, c'est quelque chose de complètement atypique. C'est un vin pourrait remplacer un vin liquoreux, même s'il n'est pas sucré. Quelque chose qui va avec la cuisine sucrée-salée.
D'accord. Vous êtes basé à Cransac, mais dites-moi, Cransac, c'est plutôt une ville d'eau.
Eh oui. Mais de ce que j'en sais, puisque donc, je ne suis pas natif, mais c'est une ville qui s'est partagée entre l'industrie et le thermalisme. Pendant des années, ça a fait railler. L'industrie a eu raison pendant un moment, et maintenant, c'est le thermalisme. Mais c'est un avantage. Parce que, par exemple, moi, j'utilise les eaux de source du village pour faire mes traitements sur les vignes, qui sont en bio, parce qu'elles contiennent plein de minéraux et un pH, etc. Des propriétés qui sont très adaptées à ce que je fais, c'est-à-dire de la culture la plus naturelle possible.
Ok. Ben, Olivier Basset, on vous remercie pour ces informations. Donc, je rappelle que c'est Lilian Batelot qui nous a envoyé vers vous. Donc, pour l'instant, on reste dans des vins aveyronnais, après le Marcillac et le domaine de la Carolie qu'on avait vu il y a 15 jours. Mine de vin, des vins à consommer avec modération, en suivant peut-être les aventures de Francine V dans Géronimo et moi, le livre de Lilian Batelot. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous et merci à Lilian.
Merci William pour cette interview. Et tu voulais nous parler aussi aujourd'hui, tu voulais nous donner des nouvelles de Pascal Dessin qu'on a eu l'occasion d'inviter ici à Millau il n'y a pas si longtemps que ça, à l'association Polar Vin et Compagnie.
Mieux que ça, un livre de nouvelles. Alors Pascal Dessin, vous allez dire encore oui, puisque c'était l'invité de la première émission. En même temps, c'est un peu le parrain, hein, on l'avait dit, le parrain de cœur de cette émission. Alors, Pascal Dessin renoue avec la nouvelle, un format court qui lui sied à merveille avec la sortie le 21 mars dernier du recueil de nouvelles « Le malheur prend son temps » chez l'éditeur La Déviation. Après « Jusqu'ici tout va mal » chez le même éditeur, sur la couverture duquel l'œil sombre d'un corvidé nous mettait en garde contre les dérives de l'humain face à la nature, c'est ce coup-ci l'œil malicieux d'un renard qui vous fixe et vous condamne. Malicieux comme la plume de Pascal Dessin l'est tout autant, mais l'humour, fût-il noir, n'est-ce pas la meilleure façon de faire prendre conscience du mur vers lequel on se dirige ? Pascal Dessin reste donc bien avec ce recueil de nouvelles, l'auteur vert du roman noir. Donc, Le malheur prend son temps de Pascal Dessin chez La Déviation.
Merci Florent, merci Pierre, j'y arriverai pas. Au revoir. Merci à William, mais aussi évidemment à Lionel qui nous a quittés. On se retrouve pour cette émission le vendredi à midi ou le mardi suivant à 16h, tous les 15 jours sur Radio Larzac. À bientôt.
Oui, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.